Vous écoutez toujours les programmes du studio Kalangu à travers nos radios partenaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 18h au micro Nafissa Adam. Les titres de ce journal. Aucun district sanitaire du pays n'a atteint le seuil épidémique nécessitant une riposte vaccinale de la méningite à la date du 20 mars 2017. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Le Point, dans ce journal. 15 maires des communes d'Agadez et l'ensemble des conseillers régionaux ne sont pas contents de la loi 2015 sur la migration illégale. Le président du conseil régional d'Agadez et le maire de Tirozérine se prononcent. Le président de l'Assemblée nationale, François-Claude Bartolone, est en visite de travail au Niger depuis hier soir. Il a réaffirmé ce matin devant le Parlement nigérien l'engagement de la France à lutter contre le terrorisme au Sahel. Enfin, nous parlerons en partie magazine de la 5e édition des rencontres littéraires qui ont débuté hier à Niamey. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et président du Comité national de gestion des épidémies a animé hier soir un point de presse. C'est pour apporter des éclaircissements sur certaines informations qu'il qualifie de non fondées sur des cas de méningite au Niger. On fait le point.
À la date du 20 mars 2017, des cas sporadiques de méningite sont enregistrés dans toutes les régions du pays, sauf dans les régions d'Agadez et d'Ifa. Selon le président du Comité national de gestion des épidémies, 4 districts sanitaires sont en alerte, mais aucun n'a atteint le seuil épidémique à partir duquel une riposte vaccinale est indiquée. Docteur Idrissa Mamoudou assure par ailleurs que nous sommes dans une période où généralement les services compétents de la santé publique notifient des cas sporadiques dans les pays de la frontière de la méningite qui va du Sénégal à l'Éthiopie. Selon lui, la situation nationale de la méningite est à ce jour suivie avec intérêt. L'État, les partenaires et les personnels de la santé font tout pour contrôler la situation et de souligner qu'un stock tampon en vaccin est même disponible pour intervenir sur les premiers foyers épidémiques au cas échéant.
Garindogo, un village situé à 35 km de la commune de Guesquerou, région de Difa, a été le théâtre d'une attaque hier soir aux environs de 17h par les éléments de la secte islamiste Boko Haram. Bilan, un civil tué et une boutique pillée et incendiée. Les assaillants ont pu s'enfuir en emportant un certain nombre de biens. Les explications du maire de la commune rurale de Guesquerou, Ousseynou Boukar, au micro de notre correspondant Adam Baboukarna.
C'est vers 16h30-17h, on m'a appelé pour me dire qu'il y a des éléments de BS qui étaient venus. Ils ont tiré sur un individu, sachant que c'est lui qui donne de l'enseignement au niveau des FDS. Ils ont abattu et ils sont repartis. Bon, de toute façon, ces gens, ils ont ciblé. Ils sont à la frontière de l'autre côté du Nigeria. Et c'est des gens du terroir qui connaissent vraiment les communautés. Et ils savent à quel moment ils peuvent venir commettre leurs actes et repartir. Parce que des fois, ils se renseignent sur les déplacements et les positions des FDS. Et ils savent qu'en ces temps, si les FDS ne sont pas en position, ils viennent, ils font le forfait à la minute près, ils disparaissent. Ils ont tué une personne. Et après la nuit, ils étaient revenus, ils ont brûlé les boutiques, et ils ont pillé, ils ont pris des cellulaires, ils sont repartis. Ils étaient partis à la mairie, il y a le tracteur qui est là, ils ont pris vraiment la batterie du tracteur, ils sont repartis. Ils sont à pied.
Le maire de la commune rurale de Guesquerou que vous venez d'écouter. En région toujours, les 15 maires des communes et l'ensemble des conseillers régionaux d'Agadez ne sont pas satisfaits de la gestion actuelle de la migration. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique hier soir après une réunion du cadre de concertation dans lequel ils sont regroupés. En ligne de mire, la loi de 2015 relative au trafic illicite des migrants qui prévoit des peines de prison très lourdes pour ceux qui se livrent à cette activité. Sur cette question, écoutons les explications du président du conseil régional Mohamed Anako.
Comment on peut comprendre qu'on nous empêche de mener des activités dans notre région? Tout simplement parce que l'Europe ne veut pas qu'il y ait des migrants qui arrivent. Nous, on ne doit plus mener des activités génératrices de revenus à Agadez. C'est ce que ça veut dire. On est considéré comme des criminels à travers cette loi. Donc c'est faux. Nous sommes des Nigériens comme tout le monde qui se soucient de la stabilité de leur région et de leur pays. On veut gagner dignement notre vie. Ces jeunes-là qui font les transports traversent les déserts, il y a trop de risques. Mais ils le font parce qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille. famille, au lieu d'aller voler à gauche, à droite. Malheureusement, quand il y a eu cette loi, on a commencé à les arrêter, on a commencé à prendre leurs véhicules. Mais avec tout cela, les responsables des collectivités sont parvenus à sensibiliser leur jeunesse pour leur dire que ce n'est pas grave, parce qu'on espérait qu'il y aura des mesures d'accompagnement. Mais avec du recul, on a compris qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, on a convoqué les gens pour leur dire, bon, écoutez, il n'y a rien, on ne voit rien. On a interpellé nos partenaires, on a lancé un appel à notre État pour qu'ils se ressaisissent.
Au cours de cette déclaration, les élus locaux ont vivement dénoncé le refus des trois sociétés minières de la région, à savoir les deux filières d'Areva Kominak, la Somaïr et la Sonichar, de mettre les communes dans certains de leurs droits. Issoufou Maha, maire de la commune de Tchirozirine.
Déjà les trois années qui ont été chiffrées, on est autour de reliquat de 1,8 milliard. C'est une question de droit. Nous profitons de cette occasion pour alerter l'opinion publique nationale et même locale pour que les gens sachent de quoi il s'agit et dans quelles conditions on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à cette taxe-là qui est un droit fondamental pour la population. Il est évident qu'avec la décentralisation, le repère, c'est les collectivités, qu'elles soient communes ou régions. Mais ces collectivités-là, si elles n'ont pas les moyens que la loi leur concède, notamment par les impôts qu'elles leur rétrocèdent, rien ne peut se passer. Ces collectivités ne peuvent pas travailler. Et au contraire, on arrivera à un moment où les gens vont être tellement découragés qu'ils ne croiront plus à la décentralisation. Donc, il y a déjà cette alerte-là qui est fondamentale pour nous, pour que les gens soient au courant de ce qui se passe. La deuxième étape, elle va être juridique. De toute façon, nous n'entendons pas rester là. Nous entendons utiliser tous les outils juridiques à notre possession pour justement faire en sorte que les communes et la région rentrent dans leurs droits.
Propos recueillis par notre correspondant à Agadez, Moussa Maman. Relations Niger-France, le président de l'Assemblée nationale de France est depuis hier soir en visite de travail et d'amitié au Niger. Ce matin, il était devant les députés nigériens dont son allocution Claude Bartolone a réaffirmé l'engagement de la France à lutter contre le terrorisme dans le Sahel en général et au Niger en particulier.
Lutter contre le terrorisme, en particulier contre Boko Haram, c'est protéger ensemble l'Afrique, le Niger, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, toute la région saharo-sahélienne dans laquelle vivent plus de 70 millions de personnes. C'est aussi protéger la France et l'Europe tout entière menacée, elle aussi, par l'hydre du terrorisme. Nous en gardons un souvenir meurtri. Nous sommes dans le même camp, le camp de celles et ceux qui veulent vivre, aimer et sourire. La France sait que le Niger paye un lourd tribut au terrorisme. Des morts par centaines, des centaines de milliers de réfugiés dans la région de Difa. La France sait que le Niger fait face à de lourdes menaces concrètes et meurtrières sur sa frontière libyenne, sur sa frontière malienne. Nous vaincrons ensemble car nous désirons d'un même cœur, les mêmes joies pour nos enfants, une société libre, humaine et solidaire.
Propos recueillis par notre correspondant Habibou Garba. Cette visite de Claude Bartolone avait été précédée en mai 2014 par celle du président Hollande. La France et le Niger entretiennent des relations étroites et privilégiées, notamment sur le plan politique et économique, mais aussi et surtout à travers la coopération culturelle, scientifique, défense et sécurité. Quels sont les axes de cette coopération? Réponse avec Mokhtar Hamadou.
Sur le plan économique, la France est l'un des fournisseurs les plus importants du Niger. Premier poste d'importation, les équipements mécaniques et produits pharmaceutiques. Dans le domaine de la coopération culturelle, scientifique et technique, la France était en 2015 avec 80 millions d'euros d'engagement nouveau, le deuxième bailleur bilatéral d'aide au développement derrière les États-Unis. Depuis 2015, dans le domaine de la sécurité et de la défense, un projet d'appui à la coopération transfrontalière au Sahel a été mise en œuvre dans les zones frontalières avec le Burkina Faso et le Mali. Il faut aussi noter que dans le cadre de l'opération Barkhane, la France déploie un détachement de l'armée de l'air à Niamey. Une base avancée temporaire a également été établie à Madama, à proximité de la frontière libyenne.
En bref, le premier secrétaire général adjoint du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'éducation de Boissy, Naseb Seni Haruna, interpellé par la police judiciaire vendredi dernier, a comparu ce matin devant le juge de tribunal de grande instance de Niamey. Nous apprenons par la voix du secrétaire général du SINASEB que Seni Haruna vient d'être relâché. Sport à présent, à la une de l'actualité sportive de ce mardi, la Coupe nationale et le championnat deuxième division de football, également le championnat national du sport scolaire. Nous faisons le point avec Soumana Amadou.
Concernant les éliminatoires du championnat national deuxième division, à mardi, les matchs de poule ont pris fin samedi dernier. La première demi-finale opposera Tankasawa à Mada le samedi 25 mars. La seconde demi-finale aura lieu le dimanche 26 mars avec un face-à-face Wambei et Nassara. À Zender, on connaît depuis dimanche dernier les trois équipes qui représenteront la région à la phase finale de la Coupe nationale. Il s'agit de Kandarga, JSD et Espoir FC. Tandis qu'à Agadez, la phase préliminaire se poursuit encore. Autre événement, le championnat national du sport scolaire édition 2017 lancé samedi dernier à Agadez. Plus de 1000 jeunes scolaires venus de 8 régions du Niger y participent. Il y a déjà quelques résultats en football, handball et volleyball. Les autres disciplines, à savoir l'athlétisme, la gymnastique et la lutte traditionnelle, sont prévues aujourd'hui et demain.
Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio Amfani 100 FM et sur la radio alternative 99.4 FM
à Agadez,
sur la radio Nomade FM 101.9 FM
à Arlig,
sur la radio Ikokan 95.1 FM
à Difa,
sur la radio Amfani 100 FM
à Dosso,
sur la radio Farah 92 FM
à Tirozirine,
sur la radio Azuru 95.1 FM
à Pilengue,
sur la radio Mourir Talaka 95.1 FM
à Tilaberi,
sur la radio Tebonsi 97.5 FM
à Maradi,
sur la radio Garkwa 107 FM
à Tawa,
sur la radio Tambara 107 FM
à Zender,
sur la radio Shukura 105.5 FM.
Studio Kalangu.
18h passées de 12 minutes dans le studio Kalangu, la partie magazine de cette édition. Ouverture hier après-midi de la 5e édition des rencontres littéraires de Niamey. 11 pays prennent part à cette rencontre avec comme pays invité Haïti pour 3 participants. Afrique et poésie, c'est le thème choisi pour cette 5e édition, suivant ce reportage de Diallo Mariama Kenda.
Je partirai avec pour seule valise mes mots au bout de mes lèvres, mon but donner du love jusqu'à ce que la haine capitule.
Béo est un jeune écrivain slameur haïtien. C'est la première fois qu'il séjourne au Niger. Pour lui, le slam est une sorte de poésie, une écriture d'urgence, un mouvement de l'oralité qui entraîne la jeunesse. Béo écrit essentiellement en français, même s'il compose également en créole. La langue française pour lui est une chance.
Cette façon d'aller à l'autre, je trouve que c'est extraordinaire. J'ai écrit dans des livres, dans des revues, j'écris en français, ce qui m'ont fait découvrir. Parce que si j'étais cantonné que dans le créole, je pense qu'il y aurait quelque part une certaine réserve et puis même une certaine fermeture, je dirais. Et même si on traduisait, il y aura quelque chose de différent. Moi, je pense à tous ceux qui n'auraient pas pu me découvrir si j'écrivais seulement en créole, mais c'est une chance d'écrire, de pouvoir porter les deux langues que je parle.
Philippe D'Alenvers est également écrivain. C'est avec fierté qu'il parle de son pays, Haïti. Haïti, dont la renommée littéraire a touché le monde entier. 85% des écrits de Philippe D'Alenvers sont en français. La littérature a encore sa place, aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs, affirme l'auteur. Les nouvelles technologies ne peuvent pas remplacer la lecture.
La lecture, que ce soit un livre comme J'aime, objet livre, que ce soit pour ceux qui ont la possibilité à travers un iPad ou des livres e-book, ça permet de revenir, de rassembler les idées, de penser, de réfléchir. La lecture à sa place, c'est formateur, c'est structurant.
Rendez-vous ce soir à 19h pour le vernissage de l'exposition en peinture et littérature suivie d'une conférence de presse au CCFN.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous.